Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 15, toujours concernant le thème le plus fabuleux, le plus important, qui concerne la prière. L'étude pour aujourd'hui sera les obstacles à la prière. Nous avons examiné très soigneusement les conditions positives de la prière triomphante, mais il y a aussi des choses qui sont des obstacles à la prière. Dieu les a clairement signalées dans sa sainte parole. Le premier obstacle à la prière se trouve mentionné en Jacques, chapitre 4, verset 3. Là, il est dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Je répète, « Vous demandez mal et ceci dans le but de satisfaire vos passions. » Un but égoïste prive la prière de puissance. Or, un très grand nombre de prières sont, hélas, égoïstes. Ces prières peuvent bien demander à Dieu des choses parfaitement légitimes et qu'il est selon sa volonté d'accorder. Mais le motif de ces prières étant foncièrement mauvais, elles tombent à terre, impuissantes. Le vrai but, quand nous prions, et que Dieu soit vraiment glorifié par l'exaucement qu'il accorde. Si nous faisons une demande quelconque simplement pour recevoir quelque chose qui satisfasse nos passions ou qui serve à notre plaisir d'une façon ou d'une autre, nous demandons mal et ne recevons pas, donc, nous ne pouvons pas nous attendre, c'est ce que je veux dire. Et je répète, nous ne pouvons absolument pas nous attendre à recevoir ce que nous demandons. Et ceci explique pourquoi beaucoup de prières demeurent sans réponse. Oui, bien des femmes, par exemple, elles prient pour la conversion de leur mari, ce qui est tout à fait normal et même important. Et voilà certainement une demande tout à fait légitime, mais le motif qui pousse plus d'une femme à demander la conversion de son mari est souvent égoïste. Pour quelle raison une femme devrait-elle donc désirer la conversion de son mari? Avant tout, et par-dessus tout, afin que Dieu soit glorifié, parce que elle ne devrait pas supporter la pensée que Dieu le Père soit outragé par son mari, foulant carrément aux pieds le Fils de Dieu. Beaucoup prient pour un réveil. C'est certainement une prière qui est agréable à Dieu et selon la ligne de sa volonté. Mais beaucoup de prières pour le réveil sont purement égoïstes. Les églises désirent des réveils afin d'accroître le nombre de leurs membres, et ceci afin que l'église ait une position plus puissante et plus influente dans la communauté, afin que la caisse de l'Église, soit bien remplie, ou afin qu'un rapport favorable soit fait parmi les autres assemblées. Et c'est souvent avec des motifs aussi peu élevés que les églises et les pasteurs prient pour un réveil, et c'est souvent aussi à cause de ces motifs même que Dieu ne répond pas à la prière. Quel motif devrait donc nous faire prier pour un réveil? Car, je pense, ça devrait être uniquement à la gloire de Dieu, non? Je répète, ça devrait être uniquement à la gloire de Dieu, parce que nous ne pouvons pas supporter que Dieu continue à être déshonoré par le, on peut dire, par la mondialité ou par la mondanité de l'Église. C'est surtout cela, par la mondanité de l'Église qui, de moins en moins, s'intéresse aux choses spirituelles, aussi par les péchés des incroyants, par l'impudente incrédulité de notre époque, aussi parce que le monde annule carrément la parole de Dieu, et parce que nous désirons que Dieu puisse être glorifié par l'effusion de son Saint-Esprit sur l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pour ces raisons diverses, avant tout et par-dessus tout, que nous devrions, chers frères et sœurs, prier pour un réveil. Bien des prières pour recevoir le Saint-Esprit sont des prières purement égoïstes. C'est certainement la volonté de Dieu de donner le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Il nous l'a dit clairement dans sa sainte parole, dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 13. Mais plus d'une prière pour recevoir le Saint-Esprit est entravée par l'égoïsme de son motif. Voyez-vous, des hommes et des femmes prient pour recevoir le Saint-Esprit afin d'être heureux, afin d'être sauvés, sauvés de leur misérable vie de défaite, ou afin d'avoir de la puissance en tant qu'ouvrier pour Christ, ou encore pour tout autre motif purement égoïste. Pardon. Avec quel motif devrions-nous prier pour être, chers amis, remplis de l'Esprit Saint, afin que Dieu ne soit plus déshonoré par le niveau insuffisant de nos vies chrétiennes et par l'inefficacité de notre service, afin que Dieu puisse être glorifié par la beauté nouvelle survenant dans notre vie et la nouvelle puissance conférée à notre activité au service du Maître. Quel est le second obstacle à la prière? Eh bien, voyez-vous, la Bible nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. En effet, le péché fait carrément obstacle à la prière. Plus d'un homme prie, il est vrai, prie, et pourtant n'obtient absolument aucune réponse. Peut-être est-il tenté de penser que ce n'est pas la volonté de Dieu de répondre, ou peut-être pense-t-il que les temps où Dieu répondait à la prière, si tant est qu'il l'ait jamais fait, sont révolus. C'est ce que les Israélites semblent avoir pensé. Ils pensaient que la main de l'Éternel était raccourcie, de sorte qu'il ne pouvait plus sauver et qu'étant devenu dur d'oreille, il ne pouvait plus entendre. Non pas, dit Ésaïe. Oh non, l'oreille de Dieu est tout aussi ouverte que jamais pour entendre, et sa main tout aussi puissante pour sauver. Toutefois, il y a un obstacle. Et cet obstacle, ce sont vos propres péchés. Ce sont vos crimes qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont carrément caché sa face et l'ont empêché de vous écouter. Il en est de même aujourd'hui, si bien que des hommes crient à Dieu en vain, et c'est tout simplement à cause du péché qui est dans leur vie. Ce peut être quelque faute passée qui n'a été ni confessée ni jugée, ou un péché actuel qu'on chérit, que très probablement on ne regarde même pas comme un péché, mais le péché est là, dissimulé quelque part dans le cœur ou dans la vie, empêchant Dieu d'écouter, je répète. Car c'est important. Ce peut être quelque faute passée qui n'a été ni confessée ni jugée, ou un péché actuel qu'on chérit, que très probablement on ne regarde même pas comme un péché, mais le péché est là. Il est dissimulé quelque part dans le cœur ou dans la vie, empêchant ainsi Dieu d'écouter. Voyez-vous, celui qui constate que ses prières sont inefficaces ne devrait pas conclure tout simplement qu'il demande par exemple à Dieu quelque chose et que ce n'est pas selon sa volonté, mais il devrait se retirer seul avec Dieu. Et pourquoi pas prier comme le psalmiste qu'il nous le montre au chapitre 139, verset 23. Il dit ceci: « Sens de moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Psaume 139, versets 23 et 24. Et il est dit « attendre devant Dieu jusqu'à ce qu'il mette le doigt sur la chose qui déplaît à sa vue. » Ensuite, on peut dire « je devrais confesser mes péchés et je devrais évidemment abandonner, il me semble, ce péché. » Voyez-vous, je me rappelle bien une époque de ma vie où je priais pour deux choses qu'il me semblait que je pourrais obtenir, car il y avait de l'honneur, oui, il y allait même carrément de l'honneur de Dieu. Mais la réponse n'est jamais venue. Une nuit où je m'éveillais en proie à une grande souffrance physique et à une grande détresse morale, je criais à Dieu pour ces choses-là, plaidant avec lui la nécessité de les obtenir immédiatement. Mais toujours, aucune réponse n'est venue. Alors j'ai demandé à Dieu de me montrer s'il y avait quelque chose de mauvais dans ma vie. Il me vint à l'esprit, tout à coup, une chose précise à laquelle j'avais déjà pensé plusieurs fois, mais que je n'étais pas décidé à reconnaître pour un péché. Ou si je dis à Dieu, si cela est mal, je veux l'abandonner. Mais toujours aucune réponse. Au plus profond de mon cœur, bien que je ne l'eusse jamais admis, je savais que c'était mal. De guerre lasse, je me suis écrié « Oui, en effet, cela est mal. J'ai péché. Je veux absolument abandonner cela. » Et aussitôt, j'ai trouvé la paix. Et au bout de quelques instants, j'ai pu dormir comme un enfant. Au matin, je me suis réveillé, disposé, tout à fait, Et l'argent qui était vraiment nécessaire à l'honneur de Dieu est tout à coup arrivé. Oui, voyez-vous, le péché est une chose effroyable, et plus effroyable encore est la manière dont il fait obstacle à la prière, la façon dont il nous coupe de toute communication avec la source de toute grâce, de toute puissance et de toute bénédiction. Quiconque veut avoir de la puissance dans la prière doit être impitoyable à l'égard de ses propres péchés. Et voyez-vous, cela est bien expliqué dans le psaume 66, verset 18. Là, il est dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, alors le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Psaume 66, verset 18. Aussi longtemps que nous restons attachés au péché ou que nous contestons que Dieu nous ne... Oui, avec Dieu, il faut contester avec Dieu, il me semble. Eh bien, si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons attendre de lui qu'il prenne garde à nos prières, c'est clair et net. Voyez-vous, si une chose quelconque vous revient sans cesse à l'esprit dans vos moments d'étroite communion avec Dieu, c'est cette chose-là qui fait obstacle à la prière. Donc, rejetez-la, s'il vous plaît. Et le troisième obstacle à l'exaucement de la prière, il se trouve dans Ézéchiel, chapitre 14. Là, il est dit, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ?» Ézéchiel chapitre 14, verset 3. Oui, c'est bien le verset 3. Chers amis, voyez-vous, les idoles dans le cœur, ils contraignent Dieu à refuser d'écouter nos prières. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'une idole? Eh bien, tout être ou tout objet qui prend la place qui revient à Dieu ou qui est le suprême objet de notre affection, c'est une idole. Dieu seul a droit à la place suprême dans nos cœurs. Toute autre personne ou toute autre chose doit lui être subordonnée. Beaucoup d'hommes font de leur femme une idole. Ce n'est pas qu'un homme puisse jamais trop aimer sa femme, mais non. Mais il peut lui donner une place qui ne lui revient pas. Il peut la faire passer avant Dieu. Et quand un homme s'inquiète de plaire à sa femme plus qu'à Dieu, quand il lui donne la première place et à Dieu seulement la seconde ou la troisième, alors sa femme devient une idole et Dieu ne peut écouter ces prières-là. Il y a aussi des femmes qui font de leur mari leur idole. Beaucoup de femmes font de leurs enfants une idole. Ce n'est pas qu'on puisse trop aimer ses enfants. Plus nous chérissons Christ, plus nous chérissons nos enfants. Mais, voyez-vous, nous pouvons leur donner une place qui ne leur revient pas. Et nous pouvons les faire passer bien avant Dieu et bien avant leurs intérêts, avant les intérêts de Dieu, là est tout le problème. Et quand nous agissons ainsi, eh bien nos enfants sont des idoles pour nous. Beaucoup d'hommes font aussi de leur renommée ou de leurs affaires une idole. Et comment? Si la renommée et les affaires passent avant Dieu, alors Dieu ne peut écouter les prières de tels hommes. Si nous voulons être, disons, puissants dans la prière, il nous faut élucider ce point capital. Dieu a-t-il absolument la première place ? Est-il pour nous plus que femme, mari, enfant, renommée et tous nos affaires, plus même que notre propre vie ? S'il en est autrement, alors la prière triomphante nous est carrément impossible. Et c'est souvent en ne répondant pas à nos prières que Dieu nous montre que nous avons une idole. Étant ainsi conduit à rechercher pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, nous découvrons l'idole, et si nous la rejetons, Dieu exauce alors enfin nos prières. Le quatrième obstacle à la prière semble difficile à comprendre. La Bible nous dit dans les Proverbes, chapitre 21, verset 13, que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Oui, il n'y a peut-être pas de plus grand obstacle à la prière que l'avarice, le manque de libéralité à l'égard des pauvres et à l'égard de l'œuvre de Dieu. C'est celui qui donne généreusement qui recevra abondamment de Dieu. La Bible nous dit dans Saint Luc chapitre 6 verset 38 « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez que vous avez vous-même servi. » Ah oui. Donc tout cela se trouve dans Saint Luc chapitre 6 verset 38. Voyez-vous, l'homme qui est généreux, il peut être puissant dans la prière, mais la prière ne l'avare, on peut dire la prière de l'avare, elle sera, croyez-moi ou pas, absolument sans puissance. Donc, l'une des plus merveilleuses affirmations concernant la prière triomphante est celle de la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 22, que nous avons déjà cité, et qui nous dit, vous rappelez bien, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Ceci est en relation directe avec la générosité à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Le contexte nous montre bel et bien que lorsque nous aimons, non pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, alors, lorsque nous ouvrons nos entrailles à notre frère dans le besoin, par exemple, c'est alors et alors seulement que nous avons de l'assurance devant Dieu dans la prière. Voyez-vous, beaucoup d'hommes ou de femmes qui recherchent la cause secrète de leur impuissance dans la prière ne devraient pas chercher trop loin. Ce n'est ni plus ni moins que l'avarice absolument authentique, l'avarice ancrée en certains. Par exemple, nous savons, par les récits que nous avons lus autrefois, que George Müller était un homme de prière très puissant. Pourquoi ? Parce qu'il donnait généreusement. Ce qu'il recevait de Dieu ne s'attachait pas à ses doigts et il le passait immédiatement à d'autres. Il recevait constamment parce qu'il donnait constamment. Voyez-vous, quand on pense à l'égoïsme de l'Église professante d'aujourd'hui, et quand on pense que les églises bien-pensantes de nos pays n'atteignent pas la moyenne de 5 euros par membre, et même souvent par année, et ceci pour les missions étrangères, il n'est pas étonnant du tout que l'Église ait si peu de puissance dans la prière. Si nous voulons obtenir de Dieu, eh bien nous devons évidemment donner aux autres. La plus merveilleuse promesse de la Bible concernant la façon dont Dieu peut subvenir à nos besoins est peut-être celle de Philippiens chapitre 4 verset 19 où il est dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, verset 19. Donc, cette glorieuse promesse a été faite à l'église de Philippe et en relation étroite avec sa générosité. Le cinquième obstacle à la prière, eh bien, ce cinquième obstacle, c'est encore la parole de Dieu qui nous la montre dans Saint Marc, chapitre 11, verset 25, où il est dit « Et lorsque vous êtes debout, faisant carrément votre prière, si vous avez quelque chose contre, par exemple, quelqu'un, eh bien, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Je répète. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, puisse vous pardonner aussi vos offenses. Saint Marc, chapitre 11, verset 25. L'esprit de rancune est également l'un des plus fréquents obstacles à la prière. La prière ne peut être exaucée que si nos péchés ont été préalablement pardonnés. Mais Dieu ne peut agir avec nous sur cette base si nous montrons du mauvais vouloir envers ceux qui nous ont fait du tort. Quiconque nourrit de la rancune à l'égard d'autrui ferme hermétiquement l'oreille de Dieu à ses propres demandes. Je répète, quiconque nourrit de la rancune à l'égard d'autrui, il ferme hermétiquement l'oreille de Dieu à toutes ses propres demandes. Combien crie à Dieu pour la conversion d'un mari, d'enfant, d'amis, et se demande pourquoi leur prière n'est pas exaucée, alors que tout le secret réside en quelques rancunes contre une personne qui leur a fait du tort ou même qu'ils s'imaginent leur en avoir fait. Beaucoup de parents laissent leurs enfants tomber dans la perdition éternelle pour la misérable satisfaction de haïr quelqu'un. Le sixième obstacle à la prière, il se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Là, il est dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » On a dit que c'était la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Ici, il nous est dit clairement que de mauvais rapports entre mari et femme sont un obstacle à la prière. Je pense que ça ne devrait pas être beaucoup trop difficile à comprendre. Tel un homme qui affecte une grande piété et qui déploie une grande activité dans l'œuvre de Christ, traite sa femme avec bien peu de considération et est souvent désobligeant si ce n'est pas brutal. Il s'étonne alors, après cela, de ce que ses prières ne soient point exaucées. Il ne faut pas s'étonner. Le verset que nous venons de citer explique ce mystère apparent. D'autre part, telle femme, très dévouée à l'Église et très assidue aux réunions, traite son mari avec la plus impardonnable négligence. Oui, j'ai bien dit, avec la plus impardonnable négligence, et elle se montre même contrariante et acariâtre à son égard. Elle peut le blesser par ses vivacités de langage et par son caractère indomptable. Et elle s'étonne après cela de ce que ses prières n'aient aucune puissance. Je me rappelle d'une femme d'église très fervente qui disait à son mari, « Toi, suppôt de Satan, eh bien, tu rôtiras en enfer éternellement. » Je ne veux pas vous demander ce que vous en pensez, mais j'espère que vous pouvez comprendre que là, ces prières seront difficilement exaucées. Voyez-vous, il y a d'autres choses dans les relations entre mari et femme dont il ne peut être publiquement question, mais qui, sans aucun doute, sont souvent un obstacle pour s'approcher de Dieu dans la prière. Sous le saint nom du mariage peut se dissimuler, par exemple, une somme de péché qui est une cause de mort spirituelle et d'impuissance dans la prière. Que tout homme ou femme dont les prières paraissent ne recevoir aucune réponse étale devant Dieu toute sa vie conjugale et lui demande de mettre le doigt sur tout ce qui déplaît à sa vue. Et septièmement, le septième obstacle à la prière, il se trouve dans Jacques, chapitre 1, versets 5 à 7. Et là, il est dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » J'ai bien dit. Qu'il demande à Dieu ou qu'elle demande à Dieu la sagesse qui lui manque. Ce n'est pas une honte, au contraire. Au contraire. Dieu va donner à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Saint Jacques, chapitre 1, versets 5 à 7. Je crois que ça vaut la peine de répéter ce passage. Mais qu'il la demande, la sagesse, avec la foi, sans douter du tout. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et qu'un tel homme ou une telle femme ne s'imagine pas qu'il ou elle recevra quelque chose du Seigneur. Jacques, chapitre 1, versets 5 et 7. Oui, les prières sont également entravées par l'incrédulité. Dieu exige que nous croyions sa sainte parole d'une façon absolue. Que nous la mettons en doute, ça c'est notre affaire, mais ce n'est pas bien. Nous ne devons pas la mettre en doute. Et si nous la mettons en doute, la sainte parole de Dieu, nous risquons de le faire menteur. Et c'est pourtant ce que font beaucoup d'entre nous, tout en invoquant ses promesses. Quoi d'étonnant à ce que nos prières ne soient pas exaucées. Combien de prières sont entravées par notre misérable incrédulité. Nous allons à Dieu, nous lui demandons une chose qu'il a positivement promise dans sa sainte parole et nous ne nous attendons qu'à moitié à l'obtenir. Qu'un tel homme ou une telle femme ne s'imagine pas qu'il ou elle recevra quelque chose du Seigneur. Quand devons-nous prier, chers frères et sœurs ? Eh bien, pour recevoir la plénitude de bénédiction que comporte une vie de prière, hein, il convient aussi, en effet, d'être sûr et certain dans son cœur sur la chose que nous demandons. Je répète, pour recevoir la plénitude de bénédiction que comporte une vie de prière, je le dirai un peu autrement, il importe de prier non seulement comme il convient, mais aussi quand il convient. Donc l'exemple de Christ lui-même est très riche en suggestions quant au moment qu'il convient à la prière. Premièrement, nous lisons dans Saint Marc, chapitre 1, verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Jésus-Christ choisit les premières heures matinales pour prier. Je répète, Jésus-Christ a souvent choisi les premières heures matinales pour prier. Beaucoup d'entre les plus puissants hommes de Dieu ont suivi en cela l'exemple du Seigneur. Au matin, l'esprit est frais et dans les conditions les plus favorables. Il est affranchi en effet de toute distraction. Et c'est aux premières heures matinales qu'on peut le plus aisément réaliser l'absolue concentration sur Dieu de toute notre pensée qui est si essentielle pour donner à la prière son maximum d'efficacité. Plus encore, quand les heures matinales sont passées dans la prière, toute la journée, on est sanctifié et l'on reçoit la puissance pour vaincre les tentations et accomplir les devoirs qu'elle comportera. Et deuxièmement, le sixième chapitre de Saint Luc, verset 12, nous apporte encore une lumière quant au moment où il convient de prier. Il est dit: en ce temps-là, Jésus-Christ se sentit tout à fait prêt dans son cœur, car pourquoi ? Il se rendit sur la montagne, et ceci pour prier d'une façon vraiment intense. Et il passa toute la nuit, nous est-il même dit, à prier Dieu, son Père céleste. Je répète, ça vaut la peine. Le sixième chapitre de Saint Luc, verset 12, nous apporte donc des lumières. Des lumières au moment où il conviendrait vraiment de prier. Car il est là, dit d'une façon précise, qu'en ce temps-là, Jésus-Christ s'était rendu sur la montagne pour prier. Et il a même passé toute la nuit à prier son Dieu, le Père Céleste. Ici, nous pouvons voir Jésus-Christ qui prie toute la nuit. Il passe toute la nuit entière en prière. Nous n'avons naturellement aucune raison de supposer que ce fut une habitude régulière de notre Seigneur. Mais quand même, il est certain qu'il consacra parfois la nuit entière à prier. Aussi ici, il est bon de suivre, me semble-t-il, les traces de notre Maître. Or, voyez-vous la pensée qu'il s'attache à cet exercice, à quelque mérite qui nous assurera la faveur de Dieu. Mais nous ferons bien de dire quelquefois, je vais mettre à part cette soirée pour rencontrer Dieu et pour obtenir sa bénédiction et sa puissance. Et si c'est nécessaire, s'il m'y conduit, eh bien, je passerai la nuit entière à prier. Bien souvent, nous aurons prié jusqu'au bout et nous aurons obtenu les choses désirées, alléluia, bien avant que la nuit soit écoulée. Et nous pourrons nous retirer et nous pourrons trouver un sommeil bien plus réparateur et vivifiant que si nous n'avions pas du tout passé ce temps en prière. D'autres fois, sans doute, Dieu nous gardera en communion avec lui jusqu'au matin, et quand il le fait dans sa grâce infinie, eh bien, ce sont vraiment des heures bénies que ces heures de prière nocturne nous donnent la possibilité d'être encore plus intensément avec notre Père Céleste. Les nuits de prière avec Dieu sont suivies de journées de puissance parmi les hommes. Et pendant les heures de la nuit, le monde est assoupi et silencieux, et il nous est facile d'être seul avec Dieu sans être troublé dans notre communion avec lui. Si nous réservons toute la nuit pour prier, chers amis, il n'y aura point de hâte et notre cœur aura le temps de s'apaiser devant Dieu. Et nous aurons le temps de soumettre tout notre esprit à la direction du Saint-Esprit et de prier pour toute chose jusqu'au bout. Une nuit de prière doit donc être placée entièrement sous le contrôle de Dieu. Nous ne devons poser aucune règle concernant la durée ou l'objet de nos prières, mais nous devons être prêts à nous attendre à Dieu pour prier peu ou peut-être beaucoup de temps, selon qu'il nous conduira et nous laissera mener dans cette direction-là ou telle autre, selon qu'il le jugera approprié. Troisièmement, le Seigneur se retira parfois à la montagne, et ceci pour prier et y passer des heures seul, absolument seul, en prière devant son Père Céleste. Là, c'est expliqué dans Saint Matthieu, chapitre 14, verset 23, ainsi que dans Saint Jean, chapitre 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'il allait de victoire en victoire. Il est donc plus fréquent pour beaucoup d'entre nous de prier avant les grands événements de la vie qu'après. Ah oui, voyez-vous, ceci est aussi important que cela, car si nous prions après les grands succès de la vie, nous pourrions aller de l'avant, oui, vers de plus grands encore. Tandis que nous sommes souvent soit enorgueillis, et comment ? soit épuisé peut-être des choses que nous avons faites au nom du Seigneur, et ainsi nous n'avançons pas du tout. Combien d'hommes et de femmes revêtus de puissance en réponse à la prière ont ainsi réalisé de grandes œuvres au nom du Seigneur, et puis, après leur accomplissement, au lieu de se retirer seul avec Dieu, de s'humilier devant lui, de lui donner toute la gloire pour tout ce qui avait été accompli, se sont félicités eux-mêmes et se sont enflés d'orgueil et ont dû être rejetés par Dieu. Les grandes œuvres accomplies n'avaient pas été suivies d'humiliation du moi et de prière à Dieu, de sorte que l'orgueil a pénétré dans le cœur et que l'homme puissant a été dépouillé de sa force. Oui, chers amis, Jésus-Christ priait particulièrement quand sa vie était exceptionnellement active. Il se retirait alors loin des foules qui se pressaient autour de lui et qui gagnaient le désert. Oui, il allait au désert pour être tranquille, pour prier. Et nous lisons par exemple dans Saint Luc chapitre 5 versets 15 et 16 que sa renommée s'est répandue de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Certains hommes sont si occupés qu'ils ne trouvent pas le temps de prier. Manifestement, plus la vie de Christ était active, plus il priait. Et quelquefois, il n'avait même pas le temps de manger. C'est expliqué dans Saint Marc, chapitre 3, verset 20. Et d'autres fois, il n'avait pas le temps de prendre le repos ni le sommeil nécessaire. Saint Marc, chapitre 6, verset 31, 33 et le verset 46. Mais toujours, ah oui, toujours, il prenait le temps de prier. Et puis, il était pressé par le travail. Alors là, plus il était pressé par le travail, plus il priait, contrairement à ce que nous faisons. Bien des hommes de Dieu ont appris de Jésus-Christ ce merveilleux secret. Quand le travail les a pressés plus qu'à l'ordinaire, ils ont mis à part pour la prière un plus grand laps de temps que de coutume. Et d'autres hommes de Dieu, jadis puissants, ont perdu leur force parce qu'ils n'ont pas appris ce secret et ont permis que le travail croissant refoule la prière hors de leur vie. N'oublions jamais, chers amis, que plus le travail nous presse, plus nous devons passer de temps en prière. Quatrièmement, Jésus-Christ pria quand les grandes tentations de sa vie le confrontaient. Ah oui, voyez-vous, à mesure qu'il approchait de la croix et comprenait qu'il y subirait la grande épreuve finale de sa vie, Jésus-Christ prit l'habitude de se rendre dans le jardin pour prier. Il alla dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » C'est confirmé dans Saint Matthieu, chapitre 26, verset 36. La victoire du calvaire fut remportée cette nuit-là dans le jardin de Gethsémané. Le calme, ou si vous voulez, la calme majesté de son maintien en essuyant les terribles assauts qu'il subit au prétoire de Pilate et au calvaire, fut le résultat de la lutte, de l'agonie et de la victoire de Gethsémané. Mais alors que Jésus-Christ priait, les disciples dormaient, mais Jésus-Christ demeura ferme. Bien des tentations viennent sur nous et ceci à l'improviste. Et tout ce que nous pouvons faire alors est de faire monter un cri vers Dieu afin qu'il nous secoure sur le champ. Mais nous pouvons voir venir de loin plus d'une tentation. Et dans de tels cas, la victoire doit être remportée avant même que la tentation ne nous atteigne. Et pour terminer, cinquièmement, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, nous lisons « Priez sans cesse » et dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières ». Chers frères et sœurs, notre vie tout entière doit être une vie de prière. Nous devons marcher en constante communion avec Dieu. Notre âme doit constamment regarder en haut vers Dieu. Nous devons marcher si habituellement dans sa présence que même quand nous nous éveillons la nuit, ce soit pour nous la chose la plus naturelle que de lui adresser des actions de grâce et de supplication. Chers amis, nous terminerons maintenant par la prière. Prions simplement ensemble, malgré tous les bruits de ouvrir les routes, de transformer tout autour de nous, pour mettre des câbles, des tuyaux, pour les internets et pour tout le reste, eh bien, malgré tous ces bruits, essayons dans notre cœur d'être calmes et de prier maintenant ensemble. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je suis plein d'espérance et je marche sans peur. Ô, que toute la terre apporte à son Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Oui, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour proposer aux coupables un salut éternel. Seigneur Dieu, prête l'oreille à mes prières, mon roi et mon Dieu, sois attentif à la voix de mon cri, car c'est toi que je prie. Éternel, dès le matin tu entends ma voix, dès le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à l'iniquité, le méchant n'habitera point avec toi. Mais moi, dans l'abondance de ta grâce, j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai dans le palais de ta sainteté en ta crainte. Que tous ceux qui se retirent vers toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie à jamais. Sois leur protecteur, et que ceux qui aiment ton saint nom triomphent en toi. Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'environnes de ta bienveillance comme d'un bouclier. Ô notre Dieu, veuille disposer toi-même nos cœurs à te rechercher dès le matin. Notre cœur nous dit de ta part, cherchez ma force, fais lever sur nous la clarté de ta face, ô Éternel. nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits et nous appelons sur nous toutes les bénédictions en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô, pénètre nos cœurs de reconnaissance et d'amour envers toi. Que te rendrons-nous, Seigneur, pour tous tes bienfaits? Ouvre notre bouche afin qu'elle raconte tes louanges, que notre langue de psalmodie et ne se taise point. Ô Jésus-Christ, toi seul es le chemin, la vérité, la vie de nos âmes. Demeure en nous et nous en toi comme toi-même, tu demeures dans le Père. Hors de toi, nous ne pouvons rien, mais en toi, nous pouvons toutes choses. Que nous demeurions attachés à toi, divin cep, pour la joie de notre vie présente et pour notre salut éternel, afin qu'étant par ta grâce affranchis du péché, nous vivions désormais pour la justice et dans la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Que ta grâce et ta paix reposent sur nous, qu'elles reposent aussi sur tous les nôtres, auprès et au loin, et que tous ensemble, nous puissions t'invoquer et te servir. Nous te le demandons pour l'amour de ton saint nom. Amen. Amen. Et chers amis, merci encore pour l'intérêt que vous portez à toutes ces études. Et comme vous le savez, le thème très important de la prière va encore continuer pour un bon moment, car il y a rien de plus important que la prière. D'abord et toujours la prière. Après viendront des choses merveilleuses. À bientôt à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.